Vous écoutez RTL.
RTL Soir, Marc-Olivier Fogiel.
Bonsoir, heureux de vous retrouver pour 2 heures d'infos. Et à la une, document RTL, face à face avec le terroriste de l'Opéra. François, l'un des 3 policiers qui a neutralisé l'assaillant, témoigne pour la première fois.
J'ai l'impression de faire mon travail, c'est les autres qui vous font réaliser ce que vous avez fait, quoi. Qu'on a empêché un carnage.
Samedi soir, cet agent de police secours de 41 ans qui a tiré avec son taser sur Ramat Azimov avant que le terroriste ne soit abattu, témoigne donc ce soir. Cette attaque au couteau a fait, je vous le rappelle, 1 mort, 4 blessés. Rendez-vous donc dans quelques instants pour entendre l'intégralité de ce document RTL réalisé par Olivier Bois. RTL Soir, première édition. Avec vous Isabelle Choquet, bonsoir Isabelle.
Bonsoir Marc-Olivier, bonsoir à tous.
Les autres titres du journal.
Il a ruiné la République exemplaire de François Hollande, mais il ne passera sans doute pas par la casse-prison. Jérôme Cahuzac est condamné en appel à 2 ans de prison ferme, autrement dit une peine aménageable.
Et à 18h20, l'avocat de Jérôme Cahuzac, maître Éric Dupond-Moretti, a réservé à RTL sa première interview en longueur. Il est notre premier invité.
Il y a de nouveau un pilote dans l'avion Air France. L'ancienne ministre Anne-Marie Couder prend les commandes par intérim après la démission de Jean-Marc Janaillac. Y aura-t-il d'autres journées de grève ? Réponse dans ce journal. Gaza sous tension, la communauté internationale demande des comptes à Israël après le bain de sang d'hier. Nous serons sur place avec l'envoyé spécial d'RTL. L'OM est dans la place, les joueurs sont arrivés à Lyon à la veille de leur finale de Ligue Europe. À suivre également, de la friture sur la ligne, Orange était de nouveau en panne aujourd'hui. Et puis la galère des collants qui filent, une association dénonce l'obsolescence programmée des banilons.
Tiens donc.
La bourse de Paris, elle termine en hausse de 0,23% à 5 553 points. Les courses à feur, il fallait jouer le 14, le 2, le 8, le 4 et le 12.
Et à la fin du journal, la question qui vous permet de comprendre l'actualité, l'escalade donc meurtrière à Gaza qui correspond aux 70 ans de la création d'Israël, la Nakba, catastrophe pour les Palestiniens. Alors leçon d'histoire, que s'est-il vraiment passé en 1948 ? Puis direction les coulisses de l'actualité, OM Atlético, J-1 avant le grand soir, on vous amène en coulisses avec les Marseillais, chaud bouillant. 18h30 Alain Duhamel et ce soir les violences donc à la frontière israélienne. 18h35, il est le visage de la justice des enfants, il a jugé et protégé des milliers de jeunes, il a accompagné les progrès du droit des mineurs mais aussi affronté les accusations de laxisme. Le juge, ex-juge Jean-Pierre Rosenweg, se confie dans un livre plaidoyer et tout à l'heure sur RTL. 19h15-20h, on refera le monde. Bonsoir Peggy Broche.
Bonsoir Marc-Olivier.
Et demain, ça restera instable à l'Est.
Oui, avec encore pas mal de nuages, des averses localement orageuses, mais aussi quelques éclaircies dans l'après-midi. Dans le sud-ouest, en matinée, la grisaille persiste et enfin quelques trouées l'après-midi. Et puis la Méditerranée restera ensoleillée avec encore du vent fort. Et ailleurs, sur une large partie nord-ouest, encore un temps avec de belles éclaircies, on sera au sec. Les températures remontent un peu dans le sud et seront comprises en général entre 18 et 24 degrés.
À tout à l'heure, Peggy Broche.
À tout à l'heure.
RTL Soir.
Et pour commencer donc, ce document RTL que nous vous proposons, le témoignage de l'un des policiers qui ont neutralisé Ramat Azimov.
Ce garçon de 20 ans d'origine tchétchène a attaqué plusieurs personnes au couteau samedi soir dans le quartier Opéra à Paris. Un jeune homme de 29 ans y a laissé la vie. Azimov, lui, a été abattu. Mais avant cela, un policier avait tenté de le stopper au taser. Il s'appelle François, ce policier. Il a 41 ans, délégué du syndicat Alliance Police Nationale et agent police secours depuis 10 ans dans le 3e arrondissement de Paris. Avec ses 2 collègues, il est le premier arrivé sur les lieux.
Qu'on est arrivé sur place, en fait, on localise tout de suite l'individu hein, qui est à environ une trentaine de mètres devant nous. Chacun de mes collègues savait ce qu'il avait à faire. On n'avait pas besoin de parler entre nous. On s'est positionné comme il fallait, comme on nous a appris. On pense à un déséquilibré. Hein. On pense pas du tout aux terroristes ou on pense à un déséquilibré dangereux, quoi. Dangereux. Après, il fait volte-face. Hein, il se dirige vers nous. Toute la foule un peu se disperse hein, pour se protéger. Ils rentrent dans les restaurants, enfin là où ils peuvent. Donc, ils continuent en criant « Je vais vous planter, je vais vous planter. Tire, tire. »
Donc là, il se rapproche très près. Vous voyez son couteau.
Ah oui, on le distingue parfaitement. Hein. Il est très près, oui, oui, très près. Hein. C'est environ 3 mètres hein, la portée d'un taser, hein, donc c'est vraiment très peu. Donc j'ai pas attendu les 3 mètres, j'ai tiré un peu trop tôt, donc ce qui fait que le taser n'a pas fonctionné.
Vous vous sentez en danger à ce moment-là ?
Là, oui, parce que 3-4 mètres, c'est très peu. Et là, il se précipite en fait sur un de mes collègues, donc il tente de le poignarder. Et c'est là où il tire sur l'individu à 2 reprises. Bah là, on n'avait pas le choix. Et là, il tape à 2 mètres. J'ai eu peur, oui, pour mon collègue, hein, qu'il se prenne un coup de couteau, tout simplement. Hein.
Et là, vous comprenez que vous avez été au cœur d'un attentat.
En fait, les informations arrivent au fur et à mesure. Et effectivement, après, avec le nombre de victimes, on comprend à qui on a affaire.
Qu'est-ce que vous avez ressenti, vous, avec le recul ? Vous êtes un effectif de police secours ? C'est-à-dire pas un effectif spécialisé, vous n'avez pas spécialement les armements pour. Est-ce que vous aviez en tête que vous pouviez vous retrouver un jour sur une scène d'attentat ?
Pas dans ces conditions. pas dans ces conditions. On sait qu'on est dans une période sensible, mais être face à face comme ça avec un terroriste, non, on n'y pense pas trop, non.
Quand vous rentrez chez vous, quand vous décompressez, vous pensez quoi ?
Bah, on se refait la scène, hein. C'est sûr, on se refait la scène, hein, tout le scénario, ce qui aurait pu arriver. Heureusement, comme je vous ai dit, il n'y a pas eu de blessés chez nous. J'ai envie de dire, on ne ressent pas grand-chose dans un premier temps, c'est après, quoi.
Et vous avez l'impression, ce soir-là, d'avoir juste fait votre travail ?
Bah, moi, personnellement, j'ai l'impression de faire mon travail. C'est l'entourage, c'est les autres qui vous font réaliser ce que vous avez fait, quoi. Qu'on a empêché un carnage, que voilà, quoi, qu'on a fait quelque chose d'important, quoi.
Document RTL signé Olivier Bois.
À Créteil, un homme d'une soixantaine d'années est soupçonné d'avoir voulu enlever 4 enfants d'une dizaine d'années. Il a tenté de les faire monter de force dans sa camionnette hier soir, mais ils ont réussi à s'enfuir et à donner l'alerte car ils avaient relevé son immatriculation. Le suspect est en garde à vue.
Nous serons à Créteil dans le journal de 19h. Il a triché. Il a menti, mais Jérôme Cahuzac devrait échapper à la prison.
L'ancien ministre du budget a été rejugé pour ses comptes cachés à l'étranger. Il a été condamné à 4 ans de prison, dont 2 avec sursis pour fraude fiscale et blanchiment. Il écope également d'une amende de 300 000 euros et 5 ans d'inéligibilité. Bonsoir Thomas Proutot.
Bonsoir.
2 ans avec sursis, mais aussi 2 ans ferme. Pourquoi Jérôme Cahuzac n'irait pas en prison ?
Eh bien, en raison du quantum de la peine, justement, 2 ans ferme, cela ouvre la voie à un aménagement, c'est-à-dire un placement sous bracelet électronique, par exemple, avec obligation de rester au domicile à certaines heures. 2 ans, c'est en fait le maximum. Au-delà, Jérôme Cahuzac aurait automatiquement été envoyé derrière les barreaux. C'est ce que redoutait l'ancien ministre du budget, puisque en première instance, en 2016, il avait écopé de 3 ans ferme. Les magistrats de la cour d'appel ont donc écarté cette option, tout en fustigeant la gravité de la faute publique et des mensonges du responsable politique. Jugement presque paradoxal. Jérôme Cahuzac attend désormais la convocation d'un juge d'application des peines. Cela va prendre plusieurs semaines au minimum. C'est ce magistrat qui décidera de son avenir au vu des garanties apportées, domicile, travail, volonté de réinsertion. Cela aura lieu en Corse, où vit aujourd'hui Jérôme Cahuzac. Si le condamné fait profil bas, l'aménagement de peine lui sera très probablement accordé. En attendant, celui que certains avaient surnommé le paria de la République reste libre de ses mouvements.
Thomas Proutot pour RTL, on en reparle à 18h20 avec l'avocat de Jérôme Cahuzac, maître Éric Dupont-Moretti.
À l'Assemblée, les députés ont voté cet après-midi l'allongement à 30 ans du délai de prescription pour les crimes sexuels commis sur mineurs. C'était 20 ans jusqu'à 13 ans.
Et Air France a une nouvelle patronne ce soir, Isabelle, mais une patronne par intérim.
Oui, c'est l'ancienne ministre Anne-Marie Coudert qui a été nommée cet après-midi en Assemblée Générale. Elle remplace Jean-Marc Janaillac qui a démissionné après le rejet de sa proposition d'accord sur les salaires. Mais bon, ce n'est que pour quelques mois. Bonsoir Éric Vanier.
Bonsoir.
Pendant ces quelques mois, faut-il s'attendre à de nouvelles grèves ?
Alors ce qui est sûr, c'est que la simple nomination d'Anne-Marie Coudert ne va pas régler d'un coup de baguette magique le conflit. Elle ne va occuper le fauteuil de présidente qu'à titre transitoire, le temps de trouver un successeur définitif à Jean-Marc Janaillac. Elle n'aura pas une totale liberté d'action, puisqu'elle sera flanquée d'une direction collégiale qui sera composée du directeur général d'Air France, Franck Terner, de son homologue de KLM et du directeur financier du groupe, tous garants de l'héritage de Jean-Marc Janaillac et de sa stratégie. Et puis surtout, elle n'a pas formellement de mandat pour reprendre les négociations avec l'intersyndicale et faire des concessions. Son titre est d'ailleurs explicite, présidente non exécutive. Elle est juste là pour assurer l'intérim, fédérer les différentes composantes du groupe. Ça ne l'empêchera pas, bien sûr, de recevoir les syndicats, de reprendre contact avec eux, ne serait-ce que pour éviter, justement, de replonger dans un nouveau cycle de grève. Pour l'instant, en tout cas, l'intersyndicale n'a rien décidé. Elle observe, pas de dépôt de préavis prévu, mais si le nouveau patron n'est pas rapidement désigné, si l'intérim d'Anne-Marie Coudert traîne en longueur, la situation pourrait à nouveau se tendre. Les syndicats, qui veulent pousser leur avantage, ne s'interdisent rien.
Merci Eric Vanier, spécialiste transport de RTL. La situation reste très tendue au Proche-Orient au lendemain du bain de sang à Gaza.
Des heures en marge de l'inauguration de l'ambassade américaine à Jérusalem, ils ont coûté la vie à 59 Palestiniens, dont 8 enfants. Il faut y ajouter la mort d'un bébé qui a succombé après avoir inhalé des gaz lacrymogènes. Le Conseil de sécurité de l'ONU se réunit en urgence ce soir. Londres réclame une enquête indépendante. Christophe Decroix, vous êtes l'envoyé spécial d'RTL. À la frontière avec Israël, tout peut s'embraser d'un instant à l'autre, vous le vivez en direct.
Je me trouve donc à Malaka, sur ce terre-plein qui fait face à la frontière israélienne, une frontière qui a plutôt l'air d'une forteresse avec partout des miradors, des barbelés et des soldats postés en haut de monticules de sable, des tireurs d'élite qui ont fait hier des dizaines de morts. Là, il y a un drone actuellement au-dessus de la zone où nous nous trouvons à Malacca, à peu près 400-500 mètres de la frontière. On survole, en dessous, on peut voir des pneus qui brûlent, qui dégagent une épaisse fumée noire pour cacher en quelque sorte les manifestants. Ah là, il lance les lacrymogènes. Allez, on se bouge.
Un drone lance.
Donc le drone vient de lancer des lacrymogènes, plusieurs lacrymogènes en même temps après avoir coupé le fil d'un cerf-volant. Cerf-volant qui sert à envoyer des bouteilles incendiaires sur les champs côté israélien pour brûler les cultures. Du coup, attendez, autour de moi les gens qui bougent, qui veulent éviter évidemment d'être pris dans ces gaz lacrymogènes. Obligé de se replier. Le drone reste en permanence maintenant fixé dans le ciel. Le jeu du chat et de la souris va se poursuivre ainsi toute l'après-midi. Fort heureusement, cette journée n'aura pas été aussi meurtrière que celle d'hier.
À Gaza, donc à la frontière avec Israël, pour RTL, l'envoyé spécial Christophe Decroix.
RTL soir 18h11.
On va marquer une pause et dans un instant, l'OM, à la veille de sa finale, les joueurs sont à Lyon.
18h12, RTL soir avec Marc-Olivier Fogiel et pour la suite du journal, Isabelle Choquet.
Éveillé d'armes donc pour l'OM, la finale, vous le savez, c'est demain et les joueurs viennent d'arriver à Lyon.
C'est en effet au Parc OL qu'ils vont affronter l'Atlético de Madrid avec l'espoir de décrocher leur premier titre européen depuis 25 ans. Frédéric Perruche, vous êtes le correspondant d'RTL à Lyon et vous vous trouvez devant l'hôtel des Marseillais, hôtel forcément très surveillé.
Oui, le quart de l'OM est arrivé peu après 16h dans cet hôtel 4 étoiles de la banlieue lyonnaise sous haute surveillance. 4 fourgons de police, une vingtaine d'hommes chargés de la protection des joueurs. Des bâches sont également installées le long de l'établissement pour plus de discrétion. Pour l'instant, c'est le calme absolu. Pas de supporters marseillais à l'horizon alors qu'ils étaient une poignée des collégiens essentiellement venus soutenir bruyamment les joueurs de l'OM à leur descente d'avion. Et le plus acclamé de tous, sans conteste, c'est Dimitri Payet.
Oh, je tremble quand même alors. Je tremble.
C'est magnifique.
Je tremble.
C'est magnifique. Oh, c'est magnifique. Oh,
l'OM. Allez, l'OM.
On va gagner la finale. On va la gagner.
Voilà, je précise qu'il n'était que 5. Ils feront encore beaucoup plus de bruit demain dans les gradins du Groupama Stadium.
On va s'y préparer, Frédéric Perruche à Lyon pour RTL. Journée spéciale demain sur l'antenne toute la journée et notamment RTL soir depuis le stade. Donc 18h-20h. Match à suivre après sur l'antenne. Le débrief jusqu'à minuit. Le problème était censé être résolu, Isabelle, mais aujourd'hui encore, Orange était en panne.
Oui, un peu comme pour les tremblements de terre, il y a eu, comme qui dirait, une réplique. Comme hier, ce sont les appels entre Orange et les autres opérateurs qui sont perturbés. Bonsoir, Sophie Jousselin.
Bonsoir.
Alors, qu'est-ce qui se passe et est-ce que cette fois, c'est vraiment réparé ?
Bien, difficile à dire, mais depuis environ 16 heures, la situation revient à la normale. Mais c'était la même chose hier, à la même heure. Les services d'Orange surveillent actuellement le réseau comme le lait sur le feu, dans la crainte d'une nouvelle défaillance de cette plateforme d'interconnexion, la même qu'hier. Toute la journée, il a été compliqué, voire parfois impossible, de passer des coups de fil depuis les réseaux de Bouygues et SFR vers celui d'Orange et inversement. Soit la communication était coupée, soit un message vous indiquait que le numéro que vous cherchiez à joindre n'était pas attribué. L'opérateur a, semble-t-il, progressé sur l'origine du dysfonctionnement, mais ne souhaite pas communiquer tant qu'il n'est pas sûr. Toujours est-il que cette panne redondante a provoqué la colère des usagers des 3 opérateurs, mais aussi celle des concurrents d'Orange, victimes collatérales de ce bug.
Précision pour RTL de Sophie Jousselin, merci.
Le nombre de morts sur les routes en légère baisse en avril, moins 0,7%, soit 279 tués. Voilà qui confirme la tendance à la baisse amorcée l'an dernier. Le bûcher des vanités, c'était lui. L'écrivain Tom Wolfe vient de mourir. Il avait 88 ans. Il était aussi une figure du nouveau journalisme américain. Et puis au Royaume-Uni, fin du psychodrame, le père de Meghan Markle devrait bien assister au mariage samedi avec le prince Harry. S'il a l'accord de ses médecins, il y avait jusqu'ici un doute. Il faut dire que le papa de la mariée, c'était un petit peu répandu sur des sites paparazzi.
Oui, absolument. Il a même vendu des photos.
Carrément.
On en vient à cette calamité pour presque toutes les femmes, du moins paraît-il, c'est ce que vous m'avez dit.
Je vous assure.
Les collants qui filent.
C'est horrible. L'association Halte à l'obsolescence programme les sonne l'alarme. Après enquête, elle estime que dans les 3/4 des cas, un collant ne peut pas être utilisé plus de 6 fois sans craquer. Ah. De là à se dire que c'est fait exprès, il n'y a qu'un pas. En tout cas, Mathilde Vinceneux, le problème empoisonne toutes les porteuses
de jupe.
Oui, quand on demande à Sarah combien de temps elle arrive à garder la même paire de collants, elle lève tout de suite les yeux au ciel.
Il suffit d'une fois où tu sors et quand tu t'assis sur une chaise, ça se retient et quand tu te lèves, t'as tout qui se déchire d'un coup. Donc je dirais pas plus de 5 fois pour moi.
Principale cause de la fragilité des collants, la présence d'élastane qui les rend plus confortables. Alors Monique, qui ne peut pas garder ses bas plus de 3 jours, regrette le temps des collants 100% nylon, plus solide et surtout réparable.
Je me rappelle maman me faisait remailler ses bas. Oh, je pense pas qu'on y gagne sa vie aujourd'hui, c'est la période jetable.
Et en effet, 7000 tonnes de collants sont jetées par an, un problème écologique pour la cofondatrice de Halte à l'obsolescence programmée, Laetitia Vasseur.
C'est un déchet qui ne se recycle pas, qui est dans le meilleur des cas incinéré. En plus, il y a la fabrication qui demande beaucoup d'eau et d'intrants chimiques toxiques. Et vraiment, maintenant, on s'attend à ce que les marques se saisissent du recyclage et de la durabilité des collants, qui est vraiment un enjeu important.
Alors, en attendant les collants recyclables ou biodégradables, mieux vaut privilégier ceux qui sont durables, c'est-à-dire un peu plus chers.
Merci Mathilde Vincenot pour RTL. Isabelle, vous revenez à 18h30.
En jean, à tout à l'heure.